Ce que je vous propose ce matin, ça se comprend mieux avec l'appui des deux fois précédentes, mais si vous avez raté les deux fois précédentes, c'est pas grave. Voilà, c'est un petit peu un complément, mais bon. Pris isolément, ça serait un peu court, quoi. Je résumerai, donc voilà, ça c'est le projet, puis je vais résumer un petit peu tout ce que je vais dire maintenant à travers un exemple, qui sera en fait un contre-exemple. Quelqu'un me rapporte la rencontre faite avec une personne qui fréquentait l'église dont j'étais alors pasteur. Et on me livre les paroles que la personne qui fréquentait autrefois l'église lui a tenues. Et cette personne lui raconte qu'elle a quitté l'église parce qu'on y a été méchant avec elle, qu'on y a été brutal. Alors, je fais l'hypothèse que le rapport a été exact, que c'est... Voilà. Alors, il se trouve que dans cette histoire, je n'étais absolument pas impliqué, donc ni dans un sens ni dans un autre, donc je n'ai pas de raison de privilégier tel ou tel point de vue, peu importe. Mais il se trouve quand même que ce récit me laisse en partie perplexe. Perplexe parce que je le sais incomplet. Parce que, par exemple, la personne n'a pas mentionné qu'elle avait déjà quitté l'église bien avant la méchanceté en question. Donc, ça ne positionne pas les choses de la même façon. Et du coup, peu importe l'histoire en elle-même, mais j'en arrive là où je veux, c'est que pour ce qui me concerne personnellement, je ressens là ce qui se passe pour beaucoup d'entre nous, je pense, devant des récits incomplets. Ça dépend ce qui manque, mais il y a parfois des choses importantes qui manquent. Et quand des choses importantes manquent, ces récits ont l'effet de décrédibiliser une partie des propos de la personne qui les tient. Parce que c'est vrai, c'est une partie de la vérité qui est racontée, ça n'a pas de problème. Mais ce n'est pas toute la vérité. Ce n'est pas toute la vérité, rien que la vérité. Il en manque. La personne a laissé de côté des éléments essentiels qui aurait donné une toute autre couleur à l'histoire racontée. Alors ça peut être involontaire, ça arrive aussi, mais c'est parfois volontaire aussi, pour pouvoir se positionner parfois dans le statut de victime, et c'est un statut qui est difficile à vivre, mais il est confortable, parce qu'il attire aussi la sympathie. Quoi qu'il en soit, quand c'est volontaire, devant de telles situations, le résultat est pour moi que ça affecte ma confiance envers la personne qui a parlé. Tout ça pour vous dire quoi ? Tout ça pour nous rendre sensibles ce matin au fait que les évangiles ne fonctionnent pas comme ça. Je vais essayer de l'illustrer. Et que du coup, en tout cas pour ce qui me concerne, ça m'encourage à leur faire confiance. J'ai tout dit, on pourrait s'arrêter là, mais... Bon, les enfants, encore une demi-heure, donc comment ? Je voudrais, avant de l'illustrer à partir d'exemples des évangiles, je voudrais l'illustrer d'une autre façon. Car je crois que la question touche plus largement pas mal de choses, mais notamment la façon dont on se présente aujourd'hui. Notamment quand on cherche du travail et qu'il s'agit de devoir se vendre, entre guillemets. Et la question qu'on se pose, peut-être, c'est si l'on est honnête... Faut-il dire, ou plutôt, comment dire la vérité ? Voire même, j'exagère un peu, qu'est-ce que c'est que la vérité ? Bon, je m'explique. Est-ce que pour se présenter pour un emploi, par exemple, est-ce que le deal, c'est de présenter tout de suite toutes ces nobles qualités qui sont très très nombreuses et qu'on développe et on parle que de ça ? Et laisser de côté ses défauts ou ses limitations ? Est-ce que c'est ça ? Ou bien, est-ce qu'il faut mentionner les défauts ? Ou bien en mentionner quelques-uns, mais sans s'attarder ? Ou bien, à l'inverse, est-ce qu'il faut faire la liste interminable de ces défauts ? Et quel dosage ? Et puis même, plus simplement, je pose la question, dans quel ordre ? Car, comme un certain nombre de psychologues l'ont mis en valeur, c'est d'autant plus délicat, l'ordre est important, ça a l'air de rien, mais c'est délicat parce que la première impression est déterminante. Dans les années 1940, ce monsieur qui s'appelle Solomon H. fait l'expérience et il va présenter à deux groupes distincts. Il va leur présenter la même personne qu'on va appeler Steve. Bonjour Steve, le voici. C'est pas lui, hein, mais bon, voilà. Et il va présenter Steve à chacun des groupes avec les mêmes mots, exactement les mêmes mots, mais pas dans le même ordre. Au premier groupe, il dit « Steve est intelligent, travailleur, sanguin, critique, têtu et envieux. » Premier groupe. Groupe numéro 2, il dit « Steve est envieux, têtu, critique, sanguin, travailleur et intelligent. » C'est la même information. C'est pas le même ordre. C'est à l'envers. Bilan des courses. Le premier groupe avait une meilleure opinion de Steve que le deuxième groupe. Alors vous me direz, oui, c'est normal. Ouais, c'est normal, oui. Vu comme ça, on peut hésiter. Et j'ai envie de nous dire, mais qui est-ce qui dit parmi nous que nous sommes des êtres purement logiques, très rationnels, absolument pas influençables ? Gérald Bronner, qui est un sociologue contemporain, de qui je reprends l'exemple, prolonge l'enjeu. Là, c'est l'entretien d'embauche, mais je vais un petit peu plus loin. Il prolonge l'exposé des enjeux de ce phénomène. Et il écrit la chose suivante. On a pu montrer que cet effet est très fort concernant les informations, et notamment les fausses informations que l'on nomme des infox. Lorsqu'un individu est confronté à un premier récit d'un phénomène, il demeure une impression favorable dans son esprit, quand bien même il lui a été démontré qu'elle était fausse. Donc la première impression compte, une empreinte est laissée dans notre esprit, et ce n'est pas si évident de rétropédaler. Petite parenthèse au passage, ça m'amène à dire qu'il y a peut-être lieu de ne pas trop s'étonner parfois si nombre de nos contemporains ont du mal à imaginer que l'Évangile n'est peut-être pas si négatif que ce qu'ils ont entendu dire autour d'eux, dans leur entourage, dans les médias ou autres. Bref, qu'est-ce qu'il faut, quand on se présente, qu'est-ce qu'il faut dire de ses capacités, de ses incapacités, dans quel ordre ? Je laisse la question ouverte. Je ne sais même pas d'ailleurs s'il y a une réponse universelle. Je me permets un témoignage personnel qu'il ne faudrait pas non plus complètement généraliser, mais je peux juste témoigner que pour ce qui me concerne, assez souvent, je me sens souvent bien plus à l'aise et bien plus en confiance avec des personnes qui disent leur fragilité qu'avec celles qui arrivent en disant « moi je sais ». Et je prends une illustration très simple que j'ai pu vivre avec mes enfants par le passé. J'ai peur quand les personnes qui me disent « moi, je sais » me proposent de prendre le volant à ma place. Je préfère donner le volant à celui qui me dit pas ça. Parce que ça m'inquiète. À tort ou à raison, hein. Je décris juste une chose. Bon, ce qui me rassure, c'est que je ne suis pas le seul à m'inquiéter dans des situations comme ça. Exemple de recrutement pour devenir pompier. Donc il y a, imaginons qu'entre les deux là, entre Jacques et moi, le Jacques qui est là, il y a un grand trou, il y a le feu au-dessous, ça plonge, et puis il y a une poutre pour traverser. Et donc on fait passer les candidats pompiers sur la poutre, enfin peut-être un peu plus longue, aller de l'autre côté et revenir. Et il y a un des candidats qui fait l'aller-retour sans problème, cool quoi, presque en dansant, il y va, il traverse le truc, il revient, et puis il dit, hop, je recommence si vous voulez, hein, pas de problème. Eh bien, ils n'ont pas retenu sa candidature. Parce que quelqu'un qui ne ressent pas la peur peut être dangereux pour lui et pour les autres. Je ne sais pas, c'est toujours comme ça, mais voilà. Donc tout ça pour faire apparaître, du coup, pour entendre un petit peu comment l'Évangile nous rejoint. L'Évangile ne fonctionne pas en dissimulant les difficultés. Un certain nombre de difficultés, et je voudrais en donner trois illustrations. Il y a d'abord tous ces textes qui posent quand même des difficultés à tout lecteur. Je vais le dire autrement, des paroles qu'on aurait bien aimé que Jésus n'ait pas dites. ou bien qu'on, même s'il les avait dites, qu'on n'aurait pas forcément choisi de rapporter dans un livre qui parle de Jésus, quoi. Parce que ces paroles soulèvent des questions auxquelles on ne sait pas forcément, ou on ne sait pas facilement répondre, voire on ne sait pas répondre du tout. Donc des paroles qui sont difficilement explicables, parfois. Je vous en propose deux. Oui, c'est bien ça. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, verset 26, nous lisons ces paroles de Jésus. « Si quelqu'un vient à moi et ne hait pas, c'est bien là qu'est le problème, si quelqu'un vient à moi et ne hait pas son père et sa mère, et sa femme, et ses enfants, et ses frères et ses sœurs, et même aussi sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Donc Jésus nous invite à haïr. On pourrait dire rien de moins. Et on comprend que cette formulation soit toute allégée, par exemple dans la toute récente révision de la traduction en français courant. Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre personne. Doit me faire passer avant. Et on pourrait, si on voulait être méfiant, on pourrait accuser cette traduction d'avoir masqué la radicalité des paroles de Jésus. Mais ça serait un procès contestable, parce qu'en fait la traduction est tout à fait légitime. Parce qu'en fait, il est très légitime de dire, et vous, plusieurs d'entre vous le savent, je pense, oui, mais c'est une façon ancienne, c'est une façon hébraïque de parler que Jésus emploie. Quand il emploie le verbe haïr, il ne faut pas le prendre à la lettre. Et en fait, le sens, c'est bien, doit me faire passer avant. Donc c'est bien comme ça qu'il faut comprendre la parole de Jésus. Donc la traduction en français courant rend bien le sens. Pas de problème. Et d'ailleurs, dans les évangiles parallèles, quand Matthieu rapporte les mêmes paroles, on lit bien « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Donc pas de problème, en fait. Enfin, pas de problème quand on sait ce qui se passe. Quand on ne sait pas... Mais ceci dit, j'ai envie de dire, il n'empêche que... Merci Jacques. Il n'empêche que... Et c'est cela que je veux vous faire sentir, que Luc n'a pas hésité à rapporter les paroles de Jésus de cette façon. Il aurait pu le rendre en rendant le sens. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas hésité à exposer à un malentendu. Il n'a pas hésité, apparemment, à s'exposer à être mal compris. Je vais le dire autrement aussi, il n'a pas cherché à vendre... un Jésus qui serait sympa, un Jésus qui serait cool, un Jésus qui serait acceptable, soft. Alors peut-être parce qu'il n'avait pas pris de cours de communication, il n'a pas fait de la com, dommage. Et on peut vraisemblablement penser que c'est bien comme ça que Jésus s'est exprimé. Et que Luc n'a pas cherché à reformuler, qu'il n'a pas cherché à atténuer. Et on peut penser qu'il a choisi de dire la chose avec des mots qui choquent, justement. Il a choisi de reprendre la parole d'une manière qui pourrait desservir le christianisme, desservir la foi chrétienne, nous faire passer Jésus pour un radical, quelqu'un d'assez obtus, un gourou péremptoire et antipathique. Donc il n'y a pas de soupline. Je ne sais pas si ça existe toujours soupline à l'époque, mais quand j'étais enfant, il y avait soupline. Oui, il y a encore soupline. Une dame au moins me confirme. Merci. Donc il a choisi de le formuler en haïr, même s'il aurait pu le dire en aimer moins, c'était le sens. Donc premier exemple. Un autre exemple, alors c'est un exemple où on comprend ce qui se passe. Mais voici un exemple où on ne comprend pas, on a du mal un petit peu à comprendre. Et c'est l'affirmation de Jésus dans l'évangile de Marc, c'est aussi dans Matthieu, Marc 13, 32, à propos de son retour. Quant au jour ou à l'heure de son retour, personne ne sait quand cela se produira, ni les anges du ciel, ni même le Fils, c'est-à-dire lui-même, seul le Père le sait. Et la question se pose à tout lecteur qui se familiarise avec le Nouveau Testament. Comment Jésus dont plusieurs textes du Nouveau Testament affirment la divinité, comment Jésus peut-il ne pas savoir s'il est Dieu ? Comment ça colle cette histoire avec le reste des textes bibliques ? Je vous invite juste à constater, j'ai pas de réponse, et puis j'ai pas de réponse, oui, pas de réponse simple, il y a plusieurs réponses proposées, voilà. Mais je vais pas y revenir. Je vous invite à constater que ce qu'on constate, en l'occurrence, c'est que les premiers chrétiens n'ont pas hésité à garder ces paroles. S'ils les avaient pas mises, ça aurait changé, est-ce que ça aurait changé beaucoup de choses à l'évangile? Ils les ont mises. Il aurait été très facile de les écarter. Et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui, souvent, enfin dans les médias, chez les spécialistes et autres, peu importe, on dit qu'on a les textes ont été construits et qu'on a écarté tout ce qui est dérangé. Et que, ben non. Voilà deux exemples. Il y a aussi d'autres textes qui font difficulté et qu'on n'a pas cherché à corriger, entre guillemets. Et si ces textes sont là, c'est au contraire, je crois, un indice qu'on n'a pas cherché à gommer les difficultés. Qu'on n'a pas cherché à faire de Jésus un portrait sympa, soft, un peu un Jésus pour les nuls, à notre hauteur, mais un vrai Jésus, le Jésus réel. Même si on ne sait pas quoi faire du coup de certaines de ses paroles ou si elles nous embarrassent. Je le redis autrement, qu'on ait gardé ses paroles, qu'on les ait transmises, donne de la crédibilité aux évangiles. On n'a pas gardé que ce qui était facile. On ne s'est même pas permis d'écarter des paroles qui, quand on les prend telles quelles, pourraient nous décourager de suivre Jésus, d'adhérer à la foi chrétienne. Premier élément, donc, la présence rassurante de paroles parfois inexplicables ou difficilement explicables. Donc ça nous embête, mais c'est un côté rassurant. Deuxième élément, alors c'est un petit peu du même ordre, mais ce sont ces textes où Jésus appelle à une consécration absolue, voire même quand il semble énoncer des exigences qui semblent surhumaines. Ces textes qui semblent placer cette fois-ci les disciples devant l'impossible. Je vais prendre des exemples. Et pourtant, on constate que ce sont ces disciples eux-mêmes qui ont transmis ces paroles. Et ils l'ont fait alors même que ça ne les arrangeait pas. Ils ont transmis, je pense à Matthieu 5, mais ça doit être plutôt dans Matthieu 6. Je suis en train de regarder ma Bible virtuellement, c'est dans le haut à droite, ça doit être fin du chapitre 5, je pense. Ils ont transmis des textes comme « Soyez parfaits », alors même qu'on pouvait et qu'on allait leur dire et qu'on n'a certainement pas manqué de leur dire. Et Jésus a dit « Soyez parfaits », toi tu me dis ça, mais t'es loin du compte mon pote, hein. Tous ces textes qui parlent même tout bêtement, si je peux employer ce langage, c'est pas bête du tout, tout bêtement d'amour fraternel, d'aimer ses ennemis, alors qu'on a du mal à aimer et ses ennemis et ses frères et sœurs parfois. Donc toutes ces paroles de Jésus qui ne sont pas du tout vendeuses, eh bien les disciples n'ont pas hésité à les garder. Alors même qu'ils n'étaient pas à la hauteur et qu'ils auraient peut-être pu facilement ne pas les mettre, eh bien ils les ont transmises. Et je reviens du coup à la parole précédente quand même, sur laquelle je reviendrai aussi à la fin. Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, avant sa mère. Ah, c'est pas le bon ? Ah oui, pardon, donc il va y avoir un problème plus tard, bon, c'est pas grave. Ok, donc je lis. Celui qui vient à moi doit me faire passer avant son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs et même sa propre personne. Sinon, il ne peut pas être mon disciple. Donc on a bien « doit me faire passer avant ». Mais même ça, cette version soft, il y a une exigence qui est là. Il y a quelque chose qui est difficile à relever. Et je voudrais le faire sentir d'autant plus que c'est difficile pour nous, dans notre société individualiste aujourd'hui, de faire tout ça, ne serait-ce que la fin. Il doit me faire passer avant sa propre personne. Bon, c'est pas si simple, Mais ces paroles ont été prononcées dans une société où c'est pas le 21e siècle individualiste. C'est une société où il faut être fidèle au groupe. C'est le groupe qui compte. C'est la collectivité qui compte. C'est le père, c'est le mère, c'est la mère, c'est le frère et la sœur qui compte. Avant moi, c'est le groupe qui compte. Eh bien, Jésus dit le contraire. C'est pas les copains d'abord. C'est pas on moucharde pas parce que dans le groupe, voilà. Je sais pas clair dans ce que je raconte. C'est pas la règle qui prime. C'est pas on ne moucharde pas parce qu'on prend soin du groupe d'abord et on va pas moucharder, on va pas dénoncer quelqu'un. Non, Jésus dit la vérité d'abord, moi d'abord. Et donc du coup l'affection, tout le lien qu'on a à nos plus proches est relativisé et passe en second. Et donc la question, c'est si Jésus n'avait pas dit ça, mais pourquoi est-ce qu'on a rapporté une telle parole? Pourquoi ces premiers disciples qui étaient, comme nous, des héritiers de leur culture, qui étaient attachés à leur groupe familial avant tout, pourquoi est-ce qu'ils auraient risqué de se mettre en porte-à-faux, eux qui, comme nous, étaient tentés de ne pas mettre Jésus en premier? Rapporter des paroles comme ça, les transmettre, si Jésus ne les avait pas dites, eh bien c'était donner le bâton pour se faire battre. C'est pas vendeur et c'est pas du tout faciliter la tâche des vendeurs. Je prends un exemple contemporain, contemporain, je sais plus si ça existe aujourd'hui ces exemples-là, mais je pense à ces vendeurs qui font du porte-à-porte parfois pour nous vendre des choses. Alors c'était peut-être plus présent par le passé. Mais c'est imaginez des vendeurs qui frappent à notre porte pour nous vendre de la lessive. Et pardonnez, je vais employer une expression vulgaire, mais je vais l'employer. Pardonnez l'expression, donc ils arrivent nous vendre de la lessive et puis ils ont des vêtements dégueulasses, quoi. Tu dis, mais attends, tu me vends de la lessive, ça va pas. Donc dans les évangiles, il y a des paroles qui sont non vendeuses, qui sont là. Deuxième élément. Et puis enfin, il y a l'attitude de Jésus lui-même. Et j'évoque trois moments. Le premier, c'est ce que j'ai projeté par erreur tout à l'heure. Donc, à un auditoire de juifs, il n'hésite pas à dire de manger son corps et de boire son sang. Vous avez une idée au moins des coutumes juives. On ne consomme pas de sang. Mais même nous, on nous invite à manger son sang. On pense vampire et tout le reste. Enfin, bon, on pense à un truc qui, on n'a pas envie de faire ça, quoi. Donc là encore, c'est une parole qui peut être choquante même aujourd'hui, si on ne la comprend pas. Il faut continuer à lire le texte. Le texte précise qu'il s'agit d'intégrer l'enseignement de Jésus. Donc le sang est une figure pour parler d'enseignement. Mais Jésus parle comme ça. Et ces paroles, quand il les prononce, ça lui valent que on lit juste après que mais il y en a plusieurs qui taillent la route, quoi. C'est bon, quoi. Ne pas écouter ce gars-là. Donc Jésus n'hésite pas à choquer, il n'hésite pas à déranger, et puis il ne leur court pas après en disant « Attendez, il y a un malentendu, vous n'avez peut-être pas bien compris ce que je voulais dire. » Non, il laisse partir. Il y a l'épisode du même ordre, alors je ne sais pas si ça va être la bonne diapo, mais si, c'est la bonne, du jeune homme riche, Matthieu 19. Puis pensez à l'enjeu de l'argent. Les riches, ils sont les bienvenus. Dans tout groupe, dans l'église aujourd'hui, ils sont les bienvenus, les riches, dans tout groupe, s'il y a un riche qui arrive, on est content de voir un riche. Plus il y a de riches dans l'église, et plus l'église, et plus le groupe auquel on appartient a des chances de bien se porter financièrement. Et donc Jésus, il y a un dialogue avec le jeune homme et Jésus, et Jésus lui dit une parole au jeune homme qui n'a pas envie. Si tu veux être parfait, on leur parle, va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu cette parole, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait beaucoup de biens. Ça aurait été facile de la part de Jésus de dire, t'es le bienvenu, écoute, te tracasse pas trop pour le moment, on va y aller petit à petit, hein, tu vas apprendre à me connaître, et puis petit à petit, ça va le faire. Avec la grâce de Dieu, ça ira? Pas du tout. Jésus lui dit d'emblée, une parole rude. Et le jeune homme riche s'en va tout triste. Et là encore, Jésus n'y court même pas après. En lui disant, attends, t'as peut-être mal compris. Non, voilà, on va se poser là. Il le laisse partir. Avec le carnet de chèques. Bon, il n'y en avait pas à l'époque, c'est bien. Mais ça serait ça. Et on nous raconte ça aujourd'hui. C'est dans n'importe quelle Bible qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin. Ce qui ne va peut-être pas encourager les riches à se convertir à la foi chrétienne. Et on peut avoir l'impression que... Enfin, Jésus ne fait rien pour faciliter le travail, apparemment. Ou peut-être il pointe le doigt sur l'essentiel de là où le travail doit se faire. Mais il ne court pas après. Et puis je termine par le fait qu'on nous raconte quand même cette histoire qui était et qui reste extrêmement choquante, quand même, si familière, de la mise à mort de Jésus, de sa mort sur la croix. Quand l'apôtre Paul commente cela, il parle, alors ça dépend des traductions, là c'est pas tout à fait ça, mais on va dire qu'il parle de scandale. Scandale, dit l'apôtre Paul, pour tout le monde. Cause de chute pour les juifs, comme pour d'ailleurs les musulmans aujourd'hui, hein, c'est pas possible que l'envoyé de Dieu soit dans une situation si... Et s'est écrasé, c'est pas possible. Cause de chute pour les juifs, folie pour les grecs, c'est-à-dire les non-juifs. Donc scandale pour tout le monde. Nous cherchons parfois à vendre, si je peux employer ce langage, la foi chrétienne, à en être témoin au moins, mais parfois à la vendre, en disant des choses comme « Deviens chrétien et tout ira bien ». Et nous le faisons parfois aussi en donnant à entendre ou à lire des témoignages qui peuvent être spectaculaires, voilà, qui peuvent être, voilà, mais qui se trouvent être des témoignages tronqués, parce qu'on raconte qu'une partie de l'histoire. Des témoignages qui ne raconteraient par exemple que les miracles que Dieu a fait dans notre histoire. Mon beau-père disait de manière un peu caustique qu'il n'était pas méchant, hein, faut pas croire qu'il pas résumer mon beau-père en disant ça, mais qu'il disait parfois on nous raconte des histoires qui sont mieux que le Nouveau Testament. Enfin, il se passe tellement de miracles, on a que des miracles à raconter, on a l'impression que c'est mieux que le Nouveau Testament, il y en a tellement plus. La question c'est, est-ce qu'il y a que ça? Nous proposons des témoignages où tout est lisse, où tout est simple, où suivre Jésus, il n'y aura pas de difficultés. Rien n'est difficile, et rien ne va être finalement difficile à croire, rien ne va nous demander un travail et de la résistance. Moi je veux des miracles, moi je veux de la puissance, et alors je croirai. Eh bien, voici la croix. Moi, je veux de la sagesse, je veux des démonstrations intellectuelles, je veux que ça réfléchisse, là, que ça tienne la route. Et alors, peut-être, je croirai. Bien, voici la croix. L'Évangile ne donne pas que du confort, ni à ceux qui ne croient pas, ni à ceux qui croient. Et parmi ceux qui croient, au fil de l'histoire, ni à nous, ni aux premiers chrétiens. Et tout ça me donne à penser que c'est parce qu'il dit vrai. Et il y a quelque chose de très... Enfin, qui me touche beaucoup, moi, de mon côté, quand on me dit, voilà ce que ça va te coûter. On te masque pas le truc, on te dit, voilà ce que ça va te coûter. On n'essaie pas de te vendre un truc un peu soft, puis après on te raconte la suite. Non, on te dit tout. Tu fais ton choix en connaissance de cause. Pour moi, c'est un gage de crédibilité. Voici l'Évangile, donc il est exigeant. Mais j'ai envie de dire, mais voici la promesse aussi à laquelle il est assorti. Parce que si la condition est exigeante, mais la promesse aussi, donc si elle a des chances d'être vraie, mais la promesse aussi a des chances d'être tout aussi vraie. Et de valoir du coup la peine de faire confiance, de s'investir, de s'engager. Je relis le texte, mais cette fois dans l'évangile de Matthieu, que j'ai pris tout à l'heure. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui l'aura perdue à cause de moi, il la retrouvera.